Alors d'abord, bonjour et puis merci aux personnes qui ont organisé cette formation de m'inviter pour échanger avec vous. Effectivement, pour vous apporter un certain éclairage juridique, comme cela vous a été dit, peut-être pas forcément uniquement théorique, puisque je le rappelle, je suis effectivement avocate, et donc depuis 15 ans, donc c'est forcément sur un terrain pratique que je mobilise le droit, et puis pour échanger avec vous des questions que vous pouvez avoir. Alors, tout d'abord, peut-être en introduction, démarrer par l'idée que je vais nécessairement soit en décevoir certains, soit en rassurer d'autres sur le fait que, comme le disait Pascal Demier, professeur à l'Université de Lyon dans son ouvrage « Introduction au droit », il ne faut pas attendre du droit qu'il puisse vous dire ce qui est vrai ou faux et vous donner une réponse à une question qui se pose, puisque le droit est un balancement perpétuel et est en mouvement. Donc souvent, je sais, pour intervenir dans le cadre de formation auprès de professionnels, que ça peut être pour certains une insécurité juridique majeure de se dire « oui, mais alors finalement, on ne sait pas exactement, puis il y a eu des revirements de jurisprudence, donc le Conseil d'État a dit cela, puis ensuite il a dit autre chose ». Donc nous, professionnels, dont le droit n'est pas notre outil principal, qui n'avons pas forcément pour certains fait du tout de formation en droit, sommes déstabilisés par ce droit-là. En ce qui me concerne, j'ai une vision plutôt optimiste de cette mouvance du droit, de son évolution, puisque ça signifie, si on place son regard autrement, qu'en réalité les choses ne sont pas figées, qu'elles ont la possibilité de bouger, et que lorsque une situation juridique, et on le verra là, ne nous convient pas, il y a toujours possibilité d'en débattre et d'en échanger pour remettre en cause ce qui a été décidé. Ce que ça signifie aussi, c'est que ça signifie que le droit n'est pas neutre. On a parlé de neutralité tout à l'heure. Le droit n'est pas neutre dans les choix politiques qui vont être traduits juridiquement par des lois. Et le droit se fait généralement dans le cadre des discussions parlementaires, avant des législations, et on le verra sur l'histoire de la laïcité, au terme de rapports de force qui se réalisent et qui finissent par trouver un compromis sur une rédaction législative qui va privilégier certains intérêts plus que d'autres, certaines libertés plus que d'autres. Et donc il n'y a pas dans le droit la neutralité que parfois certains professionnels peuvent chercher. Et il y a bien un point de vue qui est situé. Pour ma part, et je le redis également, il ne s'agit pas d'un point de vue théorique neutre, puisqu'on parlait de neutralité, puisque j'exerce depuis 15 ans, principalement dans la défense des droits des personnes qui se considèrent discriminées, et que j'exerce sur le terrain des libertés publiques et des libertés privées, afin, à mon sens, et ça c'est mon objectif personnel et il peut être discuté aujourd'hui, de tenter d'aller vers plus de liberté, vers plus de justice sociale et vers un équilibre qui me paraît moins inégalitaire. Donc par rapport à cela, nous avons aujourd'hui trois concepts qui sont en discussion. Donc la question de la laïcité. La question de la laïcité, on le verra, qui va nous conduire à parler de la question de la liberté religieuse et de la question de la non-discrimination. Pour commencer sur la question de la laïcité, et effectivement je rejoins l'intérêt du document qui vous a été remis, je ne savais pas que ce document avait été fait, mais je pense qu'effectivement il y a un intérêt essentiel à ce document qui fait état de l'histoire juridique de la laïcité, puisqu'on peut difficilement aujourd'hui parler de cette notion sans parler de l'histoire de ce droit et de comment il s'est construit pour mieux comprendre les enjeux, comme je vous le disais, sur ce qui nous conduit au régime juridique actuel tel qu'il existe aujourd'hui et tel qu'il est en discussion éventuellement pour demain. Vous l'avez vu, il y a eu un certain nombre de débats médiatiques importants qui mobilisait la notion de droit, et notamment un des débats médiatiques et une polémique, certains diront, qui s'est produite depuis janvier, concernant l'Observatoire de la laïcité et l'échange qui a pu avoir entre donc une intervention publique à la radio de la philosophe Elisabeth Badinter, qui expliquait que pour elle, alors je cite, « C'est affreux à dire, mais les événements de novembre ont donné au peuple français une espèce de retour à l'importance de la laïcité. La laïcité est une grande valeur protectrice pour tout le monde. Il me semble que la laïcité est moins contestée aujourd'hui. Je pense que c'est une valeur que l'on nous envie beaucoup dans d'autres pays qui ne l'ont pas, notamment en Angleterre. Il faut s'accrocher et il ne faut pas avoir peur d'être traité d'islamophobe à partir du moment où les gens auront compris que c'est une arme contre la laïcité, peut-être qu'ils pourront laisser leur peur de côté et choisir de dire les choses. » Elle rajoute, ceci dit, Marine Le Pen s'en est emparée, ce qui gêne beaucoup les tenants de la laïcité, mais pour autant, il n'y a pas de raison de se taire, pas de raison de changer de discours. Pourquoi je vous cite ça qui n'est pas du tout dans le champ juridique? C'est parce qu'à cela, Nicolas Cadenne, donc, qui est le rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité, Observatoire de la laïcité donc, qui est en fonction depuis 2013, va tweeter une réponse à cette intervention, se désolant quand un travail pédagogique de 3 ans sur la laïcité est détruit par une interview. La polémique part de là. À ce moment-là, Monsieur Bianco, donc qui est directeur de l'Observatoire, va soutenir Nicolas Cadenne face aux attaques qui vont être faites, et notamment une attaque, et pas des moindres, du Premier ministre, qui va considérer, un, qu'on ne peut pas remettre en cause ainsi la parole d'Elisabeth Badinter, que bien évidemment ça peut se discuter, mais que néanmoins, il va convoquer le président de l'Observatoire de la laïcité pour lui rappeler qu'il est sous son autorité et pour lui rappeler d'ailleurs qu'il ne faudrait pas que le travail de l'Observatoire de la laïcité dénature la réalité de cette laïcité. De nombreux commentaires vont avoir lieu, indiquant qu'il y a donc, a priori, plusieurs conceptions, plusieurs définitions de la laïcité. Et donc ce qui m'a intéressé, c'est de voir un petit peu comment est-ce qu'aujourd'hui le Premier ministre pouvait se positionner, considérant que ce n'était pas, le travail de l'Observatoire n'était pas conforme à la définition. Olivier Bianco tentant clore la polémique en indiquant que, en ce qui concerne l'Observatoire de la laïcité, ils partent du droit et de la définition juridique de la laïcité. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, le droit, dans les débats publics et médiatiques, est mobilisé pour tenter d'apaiser les polémiques, tenter d'apaiser les tensions, de dépassionner et d'essayer de revenir à certaines règles, un cadrage tout de même, et certaines normes qui sont admises. Alors effectivement, je vous le disais, il n'y a pas de réponse, mais il y a néanmoins des repères, des outils, il y a néanmoins des raisonnements qu'on va pouvoir élaborer ensemble aujourd'hui pour vous permettre éventuellement de comprendre ce qui se joue lorsque d'un côté, en balancement, on a le principe de la laïcité, et on verra ce que ça sous-tend juridiquement, la liberté des individus et la liberté religieuse principalement, et la non-discrimination. Puisque même si nous n'avons pas de réponse faite aux choses, il y a néanmoins des repères juridiques et des raisonnements qui sont possibles. Sur le principe de la laïcité, donc je le disais, il n'y a pas de définition juridique écrite de la laïcité. C'est-à-dire qu'on n'a pas un texte qui nous dit comment aujourd'hui le législateur national entend définir la laïcité, comme cela peut exister par exemple sur la non-discrimination. Il n'y a pas davantage de texte européen et international, et pour cause, puisqu'on le verra, la laïcité ne se retrouve pas dans nos engagements internationaux et européens, mais relève uniquement dans la définition qu'on en a en France de notre droit national, fût-il constitutionnel, mais néanmoins de notre droit national. Donc l'utilisation du terme en réalité est plus sous sa forme d'adjectif, c'est-à-dire qu'on va trouver dans un certain nombre de textes, au fur et à mesure de l'histoire de ce droit, le terme laïque, mais en aucun cas le terme laïcité utilisé comme tel et aucune définition. Je vais vous proposer pour un temps de sortir de ce terme-là et d'aller vers ce que cela sous-tend juridiquement. Ce que sous-tend historiquement en droit la question de la laïcité, c'est davantage une notion plus générale d'organisation juridique des rapports entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique. Donc la laïcité en réalité dans ce qu'on entend, c'est tout simplement comment le droit doit organiser le rapport entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique, et par voie de conséquence, la place de la religion dans la société. J'insiste sur les termes pouvoir religieux et pouvoir politique au départ, puisque on pourra se poser la question aujourd'hui, en 2016, de savoir si lorsque face à l'État, la question qui se pose est une question liée à la religion musulmane, peut-on considérer qu'il existe un pouvoir religieux au sens juridique du terme ? Puisque, on va le voir, de tout temps, Et avant même 1905, la question de la place entre l'Église et l'État va très vite être discutée. On a, et ça c'est un peu anecdotique, mais dès 1215, Philippe le Bel, roi de France, qui disait qu'il souhaitait s'opposer à l'ingérence pontificale dans les affaires d'État. Donc on amène souvent la question de la laïcité à la loi de 1905, mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui s'est passé également avant, puisque sinon, si on en reste à la loi de 1905 et qu'on ne part pas de 1789 comme c'est fait dans le document, on va avoir une vision uniquement séparatiste et on va perdre toute cette construction du droit qui s'est fait en termes de compromis sur le rôle du pouvoir religieux et du pouvoir politique. On le sait avant même la loi de 1905, et là aussi c'est intéressant, puisque certains en reparlent dans les débats actuels, on avait le système du concordat. En 1801 est signé un concordat entre l'Église et l'État. Un concordat, c'est clairement un traité qui a une valeur juridique entre l'Église et l'État, donc le Saint-Siège à l'époque, le Vatican aujourd'hui. Il faut quand même savoir juridiquement que le Saint-Siège a une personnalité morale de droit international, c'est un sujet de droit international, et que le Vatican est un État. C'est important parce que ça dit des choses sur les compromis qui sont signés et sur, comme je vous le disais, les rapports de force qui s'opèrent à partir du moment où on arrive à un texte équilibré, sage, juste ou déséquilibré parce qu'on a un rapport inégalitaire dans les pouvoirs qui sont en place, dans les négociations qui sont faites. Ce concordat est signé et ce concordat va bien évidemment restreindre le rôle de l'Église catholique à l'époque sur les affaires publiques et les affaires d'État. Néanmoins, ce concordat va permettre également à l'État de pouvoir s'intéresser aux questions de l'Église et va donner un pouvoir à l'État dans les affaires de l'Église. Donc on a véritablement un compromis, un accord qui est signé entre deux parties qu'on considère comme étant juridiquement à égalité en termes de pouvoir et de force, qui vont les uns et les autres restreindre leur pouvoir et leur liberté. Dans la question de ce concordat vont se poser un certain nombre de points, et notamment le point essentiel de l'enseignement. C'est-à-dire que très vite, l'enseignement va devenir un enjeu majeur de la relation entre l'Église et l'État et du rôle de chacun. Vont se poser un certain nombre de questions qui vont essentiellement tourner, et on le verra, ça se poursuivra, qui vont essentiellement tourner autour des programmes scolaires, autour des nominations des personnes qui ont pour mission d'enseigner, et autour des subventions et des financements. C'est essentiellement ces questions juridiquement qui vont trouver débat, à savoir qui doit s'occuper de quoi. Et certains ont dit donc l'Église chez soi, l'État chez soi, et les choses seront bien réglées. Donc effectivement, c'est toute cette situation qu'on va avoir avant 1905. On vous l'a mis également dans le document, il est important de partir de 1789. Pourquoi ? Parce que 1789 rappelle la question de la liberté de conscience. Donc on a immédiatement, avant même la question de la séparation de l'Église et de l'État, avant même des rapports de chacun, est posée la notion de liberté et la vigilance sur cette question de liberté de conscience, et ensuite on verra de liberté des cultes en 1791, pour bien rappeler que dans tous les accords qui doivent être réalisés, doit être pris en compte cette notion de liberté religieuse, avec un régime juridique spécifique qui n'est pas le même que celui de la laïcité, on le verra également. Donc je passe rapidement, et vous avez le document sur l'histoire, même si effectivement aller se plonger sur la question de l'histoire de ce droit est très intéressant. Et donc vont naître un certain nombre de débats, donc on le verra, 1850 la loi Falloux, qui est une loi bien connue, qui officialise la dualité des systèmes d'enseignement, hein, qui va bien dire qu'il peut y avoir à côté de l'enseignement public un enseignement privé, et qui va organiser cette réalité-là. Donc les années 1880 également vont être très importantes sur la question de l'enseignement, puisque petit à petit, les lois Ferry vont conduire à voter et à appliquer des lois qui fondent l'école laïque, publique et obligatoire. Donc c'est plus avant même 1905 qu'on est sur cette question dans le cadre de l'enseignement, c'est dès 1879 jusqu'à 1889 où on va avoir un certain nombre de lois qui petit à petit vont construire cette école dite aujourd'hui laïque, obligatoire et gratuite, avec des allers-retours en fonction de l'histoire, c'est-à-dire plus ou moins de restrictions sur la place de l'Église, plus ou moins de restrictions sur la place de l'État, au gré des événements historiques et des régimes historiques qu'on connaîtra, mais certains historiens vous en parleront mieux que moi. On va avoir cette évolution et puis on va arriver dans ce contexte-là sur la loi de 1905. Donc ce qui signifie que quand on arrive en 1905, la question de l'enseignement a déjà fait l'objet de débats virulents et de débats importants sur l'Église catholique qui ne souhaite pas céder sa place dans son rôle concernant l'enseignement et sur l'État qui veut totalement laïciser l'enseignement, laissant un espace pour les écoles privées avec des questions de fonctionnement, de contrôle sur les programmes ou pas. Donc bien avant cette loi de 1905. Cette loi de 1905, que nous connaissons tous, va être donc la loi dite de séparation de l'Église et de l'État, qui va donc indiquer « La République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes avec pour seule restriction celle édictée dans l'intérêt et l'ordre public. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. » On a donc un premier principe qui est le principe de liberté dans cette loi de 1905. C'est pour ça que certains considèrent qu'il s'agit d'une loi libérale. Libérale non pas au sens économique du terme, mais au sens juridique, c'est-à-dire qui doit toujours, dans l'esprit du législateur, privilégier le principe de liberté. Et c'est ce qui va ressortir d'un certain nombre de débats. Oui, séparation Église et l'État. Néanmoins, le principe qui est érigé en premier, c'est le principe de la liberté. Restriction, seule restriction, celle édictée dans l'intérêt de l'ordre public. Donc à ce moment-là, on pose effectivement un rapport juridique qui est important, et on va le voir qui petit à petit va peut-être s'inverser, qui est le principe, c'est la liberté, la restriction, c'est l'exception, sous réserve de l'ordre public et sous réserve de conditions nécessaires, justifiées, proportionnées, on le verra ensuite. On rappelle également que cette liberté, on le verra plus en amont dans la question de la liberté religieuse, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire, et c'est la liberté de manifester sa liberté religieuse, et pas uniquement une liberté de conscience. C'est pour ça qu'on a rajouté la notion de liberté de conscience et de liberté de culte. Cette loi de 1905, ceux qui l'ont réalisée et tous les débats parlementaires et tous les commentaires vont conduire à dire qu'il y a une satisfaction sur le fait qu'on est arrivé à une loi juste, équilibrée et qui préserve les intérêts des deux parties en présence, à savoir l'Église catholique et l'État. Cette notion de loi juste et équilibrée va être importante également dans l'histoire de cette loi, puisqu'on le verra, si vous regardez un petit peu juridiquement, il va y avoir la loi de 1901, donc sur les associations qui avaient pour vocation à supprimer les congrégations et donc à conduire les congrégations religieuses à devenir des associations. Cette loi de 1905 qui va poursuivre le travail de séparation Église et l'État avec le rôle de chacun. Et le Vatican va s'opposer, demandant alors aux catholiques de France de refuser de transformer les congrégations en associations loi 1901 et d'opposer une résistance à cette loi avec laquelle le Vatican n'est pas en accord. Cette demande d'opposition et de rapport de force ne va pas trouver d'écho. Pourquoi ? Justement, parce que les historiens du droit l'expliquent, parce que les catholiques de France ont considéré que c'était juste dans... C'est mon téléphone. Que c'était juste dans ce qui... dans le rapport était juste et équilibré entre la restriction du pouvoir religieux, mais également leur liberté et leurs droits. Donc il ne va pas y avoir d'opposition massive des catholiques de France, parce que il y a un sentiment, à ce moment-là, contrairement à ce que souhaite le Vatican, qui a un enjeu politique, il y a un sentiment pour les catholiques que cette loi est juste, qu'elle ne porte pas atteinte de manière excessive à leur liberté. Et par ailleurs, il faut rappeler que, bien évidemment, à côté, restent les établissements scolaires privés, la possibilité d'avoir un choix, reste le fait qu'on ait érigé juridiquement la possibilité d'avoir un jour libre pour que les parents qui mettent leurs enfants dans l'école publique puissent maintenir le catéchisme, reste qu'un certain nombre de compromis ont été trouvés qui conduisent les catholiques de France à considérer que cette loi n'est pas excessive dans le compromis qui a été réalisé. Ensuite, on va avoir donc un certain nombre concernant l'enseignement de lois qui vont continuer à organiser cette place de l'État et du religieux dans l'enseignement, puisque vous l'avez vu, c'est un enjeu majeur, et on comprend mieux pourquoi ça continue de passionner le domaine de l'enseignement par rapport à d'autres domaines où effectivement il y a également cette séparation du religieux et du politique, mais qui avec moins d'enjeux. On va avoir en 1959 la loi Debré qui accorde des subventions aux écoles privées sous contrat. Et là, c'est également une loi importante en termes d'effectivité du droit à la liberté religieuse, puisqu'on va considérer qu'on peut pas dire qu'il y a une liberté religieuse et il y a une possibilité de maintenir des écoles privées si elles ne sont pas en mesure de s'organiser, de se financer. L'intérêt du contrat d'association étant également pour l'État la possibilité de contrôler les programmes scolaires et d'avoir un droit de regard sur les nominations. Donc on a toujours ce balancier entre la liberté du religieux d'un côté, le contrôle de l'État d'un autre, la sécularisation de l'État en sortant le religieux et des compromis qui permettent tout de même de prendre en compte la liberté religieuse des individus et notamment à l'époque des catholiques. On va avoir dans les années 60-70 une généralisation de la mixité à l'école. Et là aussi, je trouvais intéressant de le rappeler, que cette mixité, cette obligation de mixité ne date que de 60-70, puisqu'on a parfois tendance à oublier un peu que notre droit évolue doucement et qu'on peut comprendre que certaines choses posent encore des difficultés. Dans les années 72 et 84, on va avoir la loi Savary qui va également re-questionner le conflit entre l'école et publique et privée. Et qui va notamment remettre en débat en 1981, alors que François Mitterrand est président, la volonté d'un programme appelé 110 propositions pour la France, qui est la mise en place d'un grand service public unifié et laïque de l'éducation nationale. La volonté était alors que les établissements publics et privés se rapprochent, et que le sens du projet Savary sur l'enseignement est de créer un grand service public de l'éducation, ne distinguant plus le privé sous contrat avec l'État et le public, ce qui bien évidemment allait avoir une incidence sur les écoles privées, puisque le fait qu'il y ait un rapprochement avec l'État et l'école privée allait conduire l'État à s'immiscer dans les affaires de l'Église et de la manière dont ces écoles étaient réalisées. Il y a eu là une mobilisation très forte et des manifestations très importantes qui ont conduit à l'abrogation de cette loi. Donc tous ces événements juridiques et réactions aux lois vous conduisent à comprendre effectivement pourquoi ce lien entre l'école publique et privée est toujours particulièrement compliqué et que malgré la loi de 1905, restaient en discussion des rapports de force et de tension entre deux institutions. Donc projet de loi qui va être annulé. Donc on est quand même dans les années 80-81. Très rapidement, et là on en vient à ce qui nous préoccupe aujourd'hui plus précisément, les années donc 1989 avec l'affaire dite du foulard islamique à l'école et les avis du Conseil d'État de 1989 et l'arrêt du Conseil d'État de 1992. À ce moment-là, on va avoir quoi ? On va avoir donc une position de principe du Conseil d'État qui va s'inscrire dans la droite ligne de ce que le droit a toujours dit, c'est-à-dire d'un côté la liberté, avec notamment l'article L511-2 du Code de l'éducation, qui dit que dans les collèges et les lycées, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d'information et de la liberté d'expression. L'exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux activités d'enseignement. Donc on va avoir effectivement la mise en balance de deux choses que va reprendre le Conseil d'État, la liberté des élèves et l'activité d'enseignement. Avec toujours en chapeau, puisqu'on le sait, le principe étant la liberté, la limite étant l'ordre public. L'ordre public toujours mobilisable avec une discussion et on y viendra sur ce qu'aujourd'hui l'ordre public en droit signifie. Et un espèce de mystère pour les non-juristes, mais je vous rassure, un mystère aussi pour tous les juristes, ce qu'est l'ordre public, et surtout aujourd'hui encore plus qu'hier. À ce moment-là, dans les affaires de 89, le commissaire du gouvernement dans l'affaire Quirois du 2 novembre 92, donc l'avis du Conseil d'État, pardon, je suis allée un peu vite, l'avis du Conseil d'État va être de dire « Il ne faut pas d'interdiction générale et absolue, puisqu'il faut systématiquement, au cas par cas, mettre en balance le principe de liberté et les activités d'enseignement. » Donc à ce moment-là, le Conseil d'État se place uniquement sur une liberté religieuse qui aurait pour effet d'entraver les activités d'enseignement et donc ainsi le bon fonctionnement du service. Dans l'affaire donc Quirois qui va se poursuivre au contentieux, le commissaire du gouvernement Kessel va dire « La distinction n'a pas été suffisamment soulignée entre les obligations faites aux élèves et celles faites aux enseignants. Parce que l'enseignement est laïque, l'obligation de neutralité s'impose absolument aux enseignants qui ne peuvent exprimer dans leur enseignement leur foi religieuse. En revanche, parce que la liberté de conscience est la règle, la seule limite à cette manifestation étant la liberté d'autrui, la question du port de signes d'appartenance religieuse à l'école a conduit le Conseil d'État à préciser sa jurisprudence sur cette question. Donc en fait, on a bien ces deux mouvements, c'est-à-dire pour le corps enseignant, ce qui va être rappelé en 89, pour le corps enseignant, le principe étant l'interdiction, puisqu'on n'est même pas sur une limitation de la liberté, l'interdiction de l'expression de la liberté religieuse avec son corollaire, le principe de neutralité, et pour les élèves, juridiquement, un rapport inversé, c'est-à-dire le principe étant la liberté et la restriction qui doit être justifiée, nécessaire et proportionnée. Donc on a ces deux figures juridiques avec des régimes juridiques spécifiques et avec des droits mobilisables qui ne sont pas les mêmes. Le corps enseignant qui incarne l'État, et donc avec la sécularisation de l'État qui représente cette sécularisation, n'est pas en mesure d'exercer sa liberté religieuse. On le verra avec une extension assez importante, hein, puisqu'on est allé, donc l'affaire Marteau, Conseil d'État Marteau 2000, qui va dire que même si la personne n'est pas en lien avec le public, même si la fonction n'est pas une fonction d'enseignement, la neutralité s'impose et l'interdiction de la liberté religieuse s'impose pour les agents de la fonction publique. Donc ce principe de neutralité des agents de fonction publique et ce principe, à l'inverse, de liberté des usagers et de liberté des élèves, avec certes des restrictions, mais qui dit restriction, dit contrôle du juge sur ces restrictions-là. Donc on a deux régimes juridiques qui sont différents et qui sont en 89 totalement distincts. Pas de discussion possible, il n'apparaît en 89 à l'idée de personne de parler de neutralité des usagers et de parler de neutralité des élèves, puisque au contraire, on considère que le principe de neutralité des fonctionnaires a vocation à garantir la non-discrimination et l'égal accès des usagers aux services publics. Alors c'est ce qu'on va appeler en droit la théorie des apparences, puisque certains disent c'est pas parce qu'on manifeste ou qu'on ne manifeste pas sa liberté qu'on arrive à une neutralité, effectivement, mais en droit il existe ce qu'on appelle la théorie des apparences, c'est-à-dire qu'en apparence, l'usager doit ne voir aucun signe qui conduirait à penser que la décision qui a été prise par le fonctionnaire, qui est une émanation de l'État dans une mission régalienne qui est l'enseignement, aurait pu être influencée par ses convictions religieuses ou politiques. Donc c'est la raison, c'est ce qui justifie la neutralité des agents publics et des fonctionnaires, et on le verra, de ceux qui exercent une mission de service public. À partir du moment où il y a une mission régalienne de service public que vous incarnez l'État, l'usager doit avoir une apparence de neutralité. On sait bien évidemment qu'il s'agit d'une apparence, puisque comme on le disait, et ça va être débattu, la question de la neutralité est toujours compliquée. Mais néanmoins, cette apparence doit exister. À l'inverse, les élèves, les usagers des services publics bénéficient d'une liberté sous réserve du bon fonctionnement du service, de l'ordre public et en ce qui concerne l'enseignement, des activités scolaires. 89, les choses sont juridiquement, j'entends, claires. 92, réaffirmation. Et puis, petit à petit, vont naître des difficultés, puisque ça suppose quoi ? Ça suppose effectivement que cet exercice d'appréciation des rapports équilibrés n'est pas donné de manière générale et absolue par le droit, mais au cas par cas, à la responsabilité des chefs d'établissement et de l'organisation du pouvoir disciplinaire. Donc de 89 à 2004, la difficulté va être celle-là, va être de rester soit sur un régime au cas par cas qui permet de concilier les intérêts en présence, soit d'arriver à au risque de faire peser effectivement sur les chefs d'établissement, mais de la même manière que le pouvoir disciplinaire conduit à pouvoir exclure, à pouvoir sanctionner sur d'autres raisons que la question du port des signes religieux. Il va y avoir donc une manifestation des difficultés pour un certain nombre de professionnels de l'enseignement de gérer cette situation. Et la circulaire Bayrou, du 21 septembre 1994, et là c'est intéressant de voir qu'à partir du moment où la loi n'est pas modifiée en 89, qu'on n'arrive pas à une interdiction générale et absolue comme ce sera le cas en 2004, on va commencer à avoir l'usage des circulaires pour dire le droit. Pourquoi j'insiste sur le point des circulaires pour dire le droit, puisque je l'ai dit rapidement tout à l'heure, mais peut-être faut-il le rappeler, l'article 55 de la Constitution nous rappelle la hiérarchie des normes et la valeur des normes juridiques. Les normes internationales et européennes ont une valeur supérieure aux normes nationales, et dans nos normes nationales, il y a également une hiérarchie, la Constitution, pour faire rapide et simple, les lois, les décrets et les circulaires ont, pour nombre d'entre elles, et on verra que c'est le cas dans l'éducation nationale, pas de force opposable pour les usagers. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on légifère par la voie de la circulaire, alors on ne légifère pas, dira le Conseil d'État, mais ça se discute quand même quand on modifie un certain nombre de critères de la loi, le Conseil d'État dit on ne légifère pas, donc l'usager ne peut pas s'en prévaloir. La circulaire Bayrou de 1994 va dire quoi ? Elle va introduire une distinction qui n'existait pas jusqu'à présent entre signes discrets et signes manifestant l'attachement. Donc signes discrets qui manifesteraient l'attachement personnel des élèves aux convictions, donc très bien, liberté religieuse, signes discrets, et signes ostentatoires qui constituent par eux-mêmes des éléments de prosélytisme ou de discrimination qui sont interdits. Donc va s'introduire une notion qui n'existait pas jusqu'alors, c'est la nature du signe. Le signe est-il discret ? Ou le signe est-il ostentatoire, au point qu'on en soit non plus dans le régime de la liberté religieuse, mais dans le régime du prosélytisme et donc du trouble à l'ordre public, puisque forcément, s'il y a prosélytisme et attitude tendante à convaincre les autres, ou en tous les cas à restreindre la liberté des autres, là, à ce moment-là, la liberté religieuse ne peut plus trouver son application. Cette circulaire va tenter un petit peu et va toujours laisser les professionnels de l'éducation apprécier, alors là avec la subjectivité, parce qu'on est sur un concept juridique qui est totalement flou, ce qui relève du signe discret et ce qui relève du signe ostentatoire et ce qui fait basculer du régime de la liberté religieuse à l'interdiction et au pouvoir de sanctionner disciplinairement. Bien évidemment, donc cette circulaire a été contestée par un certain nombre de personnes qui se sont vues appliquer des exclusions, considérant qu'ils n'étaient plus dans le régime du signe discret, mais qu'ils étaient dans le signe ostentatoire. Le Conseil d'État a considéré que comme il s'agissait d'une circulaire et comme elle ne rajoutait pas à la loi, mais qu'elle venait définir et interpréter, les usagers ne pouvaient pas s'en prévaloir. On constate néanmoins qu'il y a une volonté de certains assez forte d'une législation qui viendrait justement dire le droit de manière générale et absolue, qui permettrait de ne pas se poser de questions et d'appliquer une loi avec simplifiant pour les professionnels éventuellement la question. Et c'est dans ce contexte-là que va intervenir la loi du 15 mars 2004 interdisant purement et simplement dans les établissements scolaires le port de signes ou de tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. Donc c'est une interdiction avec un tournant juridique particulièrement important. Pourquoi ? Parce que, comme je vous le disais, on passe d'un régime où, dans la quasi-totalité des domaines, le principe est la liberté. Les exceptions sont les restrictions. Elles doivent être nécessaires, justifiées, proportionnées avec une vérification possible. Et là, on passe à un principe d'interdiction, ne laissant plus place à la question de la liberté religieuse dès lors qu'on considère que l'élève manifeste ostensiblement, avec cette nuance floue qu'on a pu voir et qui ne sera pas définie, ses convictions religieuses à l'école. Donc ceci nous démontre qu'on en arrive à un régime qui progressivement va devenir de plus en plus restrictif dans le rapport qui existe entre la liberté et l'interdiction. Et donc cette coloration qui va changer va bien évidemment avoir une incidence sur la notion de liberté religieuse, on l'a vu. C'est-à-dire que la liberté ne se situe plus au même endroit. La liberté religieuse, et il est également important de le rappeler, à la différence de la laïcité, est donc consacrée dans les textes internationaux, européens et nationaux. Donc on est sur une liberté fondamentale qui, dans le pacte des droits civils et politiques, article 18, va indiquer, de 1966, « Toute personne a le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement. Nul ne subira de contraintes pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de ce choix. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre, de la santé publique ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui. Les États parties s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux, de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leur enfant conformément à leurs propres convictions. Donc ça, c'est un pacte important de 1966. Je vous le cite puisqu'on verra. Une des discussions aujourd'hui sur la loi de 2004 est une décision de 2012 du Comité des droits de l'homme de l'ONU qui a rendu un avis. Alors on verra la différence entre l'avis et la jurisprudence au niveau des questions éventuellement, qui a rendu un avis remettant en cause la loi de 2004, considérant qu'effectivement la France, en érigeant une interdiction générale et absolue qui ne permet aucune discussion, quand bien même il y aurait un débat préalable, puisque la loi prévoit effectivement qu'il y a une concertation. Sauf qu'une concertation sur une loi de 2004 qui prohibe, ça revient à quelque chose qui est de l'ordre de est-ce que vous enlevez le signe ostentatoire ou pas. Si vous ne l'enlevez pas, vous êtes exclu. Donc c'est ça la concertation au niveau de la loi de 2004, et ça peut pas être plus, puisque le cadre juridique de la loi permet pas autre chose, puisqu'il prohibe, il érige une interdiction. Le Comité des droits de l'homme de l'ONU va considérer que la France devrait réviser cette loi générale et absolue et revenir à quelque chose qui ne serait plus général et absolu, mais qui serait au cas par cas. La difficulté, donc ça, il s'agit d'une décision de 2012 qui faisait suite à l'affaire d'un élève qui était donc sikh et qui portait un turban, donc qui n'était pas le turban classique, mais qui portait un sous-turban. Donc qui était lycéen et qui avait fait un effort d'avoir d'un signe ostensiblement interdit, un signe discret qui ne ferait que relever ses convictions religieuses. Il va donc être exclu alors qu'il est lycéen et qu'il est lycéen au moment où la loi de 2004 intervient, ce qui signifie qu'il a effectué toute sa scolarité avant comme ça. La loi de 2004 intervient et donc il n'a plus possibilité de poursuivre sa scolarité en qualité de lycéen de cette manière. Il va être exclu et il va contester cette exclusion. Il va contester cette exclusion, il va perdre au niveau du tribunal administratif puisque la loi de 2004 a été promulguée et que donc on va considérer qu'aujourd'hui cette liberté religieuse qui lui avait été accordée hier est interdite. Il va perdre également au niveau du Conseil d'État. Le Conseil d'État va considérer qu'il y a toujours une appréciation au niveau de l'établissement, du contexte, de la loi, du contexte national également dans lequel la loi a été réalisée et va considérer qu'il n'y a pas de disproportion entre la liberté religieuse et l'atteinte et le principe de laïcité, puisqu'on est sur la question du principe de laïcité. Et le Comité des droits de l'homme de l'ONU, puisque la personne n'a pas saisi la Cour européenne des droits de l'homme, puisqu'on le verra, la Cour européenne des droits de l'homme s'est plutôt prononcée en faveur de la législation nationale, considérant que, eu égard au contexte et aux difficultés que posait notamment la question de l'islam dans la société française, il y avait donc une possibilité de restreindre la liberté religieuse. Donc pour l'heure, au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, elle a plutôt validé les affaires qui lui ont été transmises, étant précisé qu'elle ne s'est jamais prononcée, et là c'est intéressant sur la suite du débat que nous avons, enfin de la discussion que nous avons, elle ne s'est jamais prononcée sur la question de la discrimination. C'est-à-dire que les juridictions européennes, pardon, et nationales ont toujours été saisies sur le terrain du conflit entre la liberté religieuse et la laïcité, mais n'a pas émergé dans le débat les conséquences de cette résolution finalement du rapport d'équilibre entre la laïcité et la liberté religieuse, des conséquences sur la question de la discrimination dans l'accès à l'instruction et dans l'accès à cette liberté qu'est également la liberté d'instruction. Donc elle ne s'est pas prononcée là-dessus, elle a uniquement mis en balance la liberté religieuse d'un côté et les impératifs de l'État quant à la préservation de la question de la laïcité ou alors des activités scolaires, puisque d'autres affaires au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme ont plutôt été sur le fait que les personnes refusaient d'effectuer certains enseignements en raison de leur religion. Donc ça, évidemment, c'est prévu, y compris dans les textes internationaux, qu'en aucun cas la liberté religieuse ne doit conduire à permettre de se départir de son obligation de scolarité et de tous les enseignements. Et donc, on verra que souvent, on considère que le droit européen et européen a validé le dispositif français, sauf que les questions qui lui ont été posées sont des questions qui sont ciblées, et que quand on monte un dossier, on pose certaines questions et pas d'autres, et que certaines questions n'ont pas encore été posées, notamment la question de la discrimination. Vous avez sur la liberté religieuse effectivement un texte également important qui est la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 9. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuelle ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. Il est aujourd'hui étonnant de pouvoir entendre, et c'est vrai que je, en tant que juriste, mais après j'ai un regard qui est forcément déformé par mon objet, il est aujourd'hui étonnant d'entendre juridiquement que la liberté religieuse n'inclurait pas la liberté de manifester sa religion. Juridiquement, rien ne permet d'avoir un tel raisonnement. Au contraire, tout va dans le sens de dire que la liberté de conscience était une des premières libertés érigées, qu'elle est absolue, mais que est venue se rajouter très rapidement la liberté de manifester ses convictions religieuses, puisqu'on considère que si la personne ne peut pas manifester ses convictions religieuses dans la limite, je le redis, de l'ordre public et d'un certain nombre de principes, on considère qu'il n'y a pas d'effectivité au principe de liberté religieuse. C'est-à-dire venir dire aujourd'hui qu'une personne aurait une liberté de conviction qui ne serait que dans la sphère privée et ne pourrait pas le manifester dans la sphère publique, c'est une absence d'effectivité totale de la liberté de religion telle qu'elle est construite internationalement, de manière européenne et y compris de manière nationale. Tous ces textes internationaux, bien évidemment signés, ratifiés et signés par la France, et reconnus, notamment s'agissant du pacte de 1966, la possibilité de saisir individuellement le comité des droits de l'homme de l'ONU, ce que d'autres pays n'ont pas fait. Donc certains vont nous dire que cet avis de 2012 du comité des droits de l'homme de l'ONU n'a pas de force contraignante, juridiquement parlant. Effectivement, le comité des droits de l'homme n'a pas possibilité d'imposer à la France de réviser sa loi telle qu'il le préconise dans son avis. Néanmoins, la France ayant ratifié et s'étant engagée à ce que des individus puissent saisir le comité des droits de l'homme, se pose alors la question de l'effectivité et de l'intérêt d'une telle saisine si la France n'entend pas suivre ou au moins prendre en compte ces avis qui sont réalisés. On voit donc bien, dans ce qui s'opère, que cette liberté religieuse est mise à mal, et on voit bien également qu'elle est nécessairement mise à mal pour des raisons historiques, mais pour des raisons également de construction du droit, pour certaines religions plus que pour d'autres, puisque la question du signe ostensible ou du signe ostentatoire va conduire à se questionner juridiquement d'abord sur la neutralité de l'État, puisque est-ce que l'État peut venir aujourd'hui régenter, j'ai envie de dire, la manière dont les personnes exercent leur liberté religieuse, alors même qu'on considère qu'on a une neutralité totale et qu'on ne peut pas faire ingérence dans cette liberté religieuse. Donc aujourd'hui, clairement, la loi de 2004 nous dit, nous, État, on considère qu'il y a des manifestations qui sont valables et il y a des manifestations qui ne le sont pas. Donc ça questionne déjà sur la question de la neutralité de l'État vis-à-vis de cette liberté religieuse. Et donc, également, ça questionne nécessairement sur la question de la discrimination, puisque inévitablement, si vous avez un rapport entre la liberté et la laïcité qui est équilibré, juste et inclusif, j'ai envie de dire, on va avoir des situations qui vont se résoudre sans avoir de décision définitive qui sont radicales, puisqu'une interdiction et une exclusion non discutables et contestées certes devant le droit, mais qui ne trouvent pas de réponse juridique, puisque je vous rappelle, et ça je ne l'ai pas dit, mais que les rapports de domination se retrouvent également quand même dans le droit et devant les tribunaux. Donc nécessairement, si on a une personne qui se voit une interdiction absolue, on va avoir une question qui va se poser sur la question de la discrimination et, je le disais tout à l'heure pour la loi de 1905, d'un sentiment, pour certains, d'une loi qui serait bien au contraire pas juste et sage, mais injuste et discriminatoire. Et aujourd'hui, vous pouvez voir dans un certain nombre de sites assez importants, c'est très rapide, vous tapez laïcité, voile, France, un certain nombre de sites font une récupération évidente de ce droit qui conduit à dire aux personnes, bah, vous êtes discriminé en France, vous n'êtes pas du tout accepté tel que vous êtes, puisqu'il y a une volonté nationale du droit français de se mettre contre les engagements internationaux, contre la liberté religieuse, et aujourd'hui vous avez un régime juridique qui est totalement discriminatoire. Donc se pose la question de la discrimination, discrimination ou pas. La discrimination, c'est quoi? Je pense que beaucoup connaissent la définition, on va juste la rappeler rapidement. C'est une inégalité de traitement dans l'accès à un droit. Donc on disait tout à l'heure, est-ce que la question de la discrimination se pose du point de vue des professionnels? Juridiquement, nécessairement. Puisqu'encore faut-il avoir la possibilité de restreindre l'accès à un droit pour pouvoir parler de discrimination. Donc lorsque certains parlent de discrimination entre usagers, qui n'ont pas de rapport d'inégalité dans le traitement qui peut être réalisé, ça peut être plein d'autres choses, mais ça peut pas relever de la discrimination. La discrimination, il faut qu'il y ait une inégalité de traitement dans l'accès à un droit fondé sur un critère prohibé par la loi dans un domaine visé par la loi. Donc discrimination directe, indirecte, et puis donc 20 critères, dont bien évidemment celui de la liberté religieuse ou de la religion, celui des origines et celui de l'égalité homme-femme, puisqu'on verra également ce critère peut-être mobilisé dans le débat qui nous occupe. Ce principe de non-discrimination donc devrait conduire à prendre une décision qui soit conforme à l'égalité des usagers devant le service public, puisque c'est de ça dont il est question, de l'égalité, et ne pas exclure certaines personnes à raison du port d'un signe ostensible, alors on en discutera juridiquement, qui s'inscrit dans la liberté religieuse. Donc effectivement, cette question de discrimination va être mobilisée de plus en plus, à mon sens, et doit devenir aujourd'hui, enfin doit entrer en débat entre la question de la laïcité, entre la question de la liberté religieuse et de cet équilibre qui conduit à une discrimination ou pas. La discrimination, elle peut être légale, donc ça, faut quand même le rappeler, parce qu'elle n'est pas toujours illégale, elle peut être légale. Donc aujourd'hui, nombre de personnes considèrent que cette loi de 2004 a opéré également un tournant par rapport à ça, puisqu'elle a légalisé une discrimination. Donc elle peut être légale, elle peut être justifiée, et elle peut être nécessaire. Ce qui signifie que lorsqu'aujourd'hui on aborde une question qui nous est posée sur le terrain des droits des usagers dans le service public de l'enseignement, on va mettre en balance juridiquement, nécessairement dans l'analyse qu'on va faire et dans le raisonnement, le principe de laïcité, séparation Église et État, et donc cette notion appliquée à l'enseignement, le principe de la liberté religieuse et le principe de non-discrimination. Je vous propose pour terminer, parce que je crois que je dois être, voilà, je vous propose pour terminer, de pouvoir appliquer cette question donc à une préoccupation qui aujourd'hui n'est pas encore tranchée, à savoir la possibilité pour des parents accompagnateurs, des parents accompagnatrices plutôt, de pouvoir accompagner leurs enfants en sortie scolaire. Juridiquement, on a... Je voulais montrer, alors effectivement rapidement, mais on a un principe de liberté pour les usagers du service public qui ne sont pas concernés par la neutralité. Ça, c'est totalement inscrit dans tous nos droits. Ce principe de liberté devrait conduire à pouvoir accompagner ses enfants en sortie scolaire avec le voile, puisque c'est de cela dont il est question aujourd'hui. Pas de loi, pas de législation, pas de texte qui viendrait dire le contraire. Et un petit peu comme l'affaire Babylou, on l'a vu, il se passe aujourd'hui une situation qui fait que quand il n'y a pas de loi qui vont peut-être dans le sens de ce que certains souhaiteraient, on considère qu'il y a un déni et qu'il y a une absence de loi. Bah, pas du tout. En droit, quand il n'y a pas de loi, c'est qu'il y a une liberté sous réserve de l'ordre public. Donc quand on ne légifère pas pour interdire, c'est parce que par principe, les gens ont cette liberté. Recours à une circulaire qui a considéré les choses autrement, la circulaire du 27 mars 2012, et qui a rappelé que le principe de laïcité, mobilisé pour répondre à la question, est un principe constitutionnel de la République, effectivement, qui permet de vivre ensemble, donc est rajoutée la notion de vivre ensemble, et on le verra, c'est quelque chose qui vient aujourd'hui dans la notion d'ordre public, et que, au regard de ce principe-là, ce principe permet d'empêcher que les parents d'élèves ou tout autre intervenant manifestent par leur tenue ou leurs propos leurs convictions religieuses, politiques ou philosophiques lorsqu'ils accompagnent des élèves en sortie scolaire. donc circulaire, comme je vous l'ai dit, avec la valeur juridique de ce qu'est une circulaire, inopposabilité de cette circulaire, c'est-à-dire que cette circulaire s'impose à moi juridiquement, je ne peux pas la contester en tant que telle, ce n'est pas une loi, je ne peux pas aller voir un tribunal en disant « cette circulaire me crée aujourd'hui une atteinte à mes droits, donc je la conteste », puisque le juge va m'indiquer qu'il s'agit d'une seule circulaire. Possibilité et pas obligation de le faire. Et donc, on va se retrouver dans un flou, là encore pour les professionnels, de savoir est-ce que j'applique cette circulaire, est-ce que je l'applique pas, est-ce que je l'applique de manière générale et absolue, est-ce que je l'applique au cas par cas, et donc dans ma construction de mon raisonnement et de mon éthique professionnelle, je vérifie si j'ai le trouble à l'ordre public, je vérifie si j'ai des éléments objectifs qui me conduiraient à restreindre cette liberté. Et puis des décisions, donc des décisions contradictoires, celle du tribunal de Montreuil qui va dire « oui, il y a neutralité des parents », alors là, en tant que juriste, on se dit « ben comment ils ont fait ?» Eh ben pas de souci, collaborateur du service public, donc il y a le mot « service public », donc « neutralité des parents ». Et on biaise donc la question de l'usager, c'est-à-dire qu'on fait sortir le parent d'une catégorie juridique qui est simple usager bénéficiaire du service public au collaborateur. Nouvel arrêt, nouvelle décision d'un tribunal de Nice, puisque donc discussion se poursuit, qui va dire pas du tout, la notion de collaborateur du service public est absolument pas possible pour les parents accompagnateurs. Donc pas de neutralité, liberté religieuse sous réserve de l'ordre public qui doit toujours être démontré et indiqué. Saisine par le défenseur des droits du Conseil d'État qui émet un avis et qui réitère cette information en disant non, les parents ne sont pas des collaborateurs du service public et oui, les parents sont des usagers non soumis à l'obligation de neutralité et qui ont leur liberté religieuse sous réserve des restrictions habituelles. Ça signifie quoi? Ça signifie, on l'a vu un petit peu, alors effectivement rapidement puisque le temps est un peu court, mais on l'a vu. On a petit à petit des restrictions de plus en plus importantes à la liberté religieuse qui sont en contradiction avec les textes internationaux et les engagements qui ont été pris, qui peuvent conduire à questionner donc le fait d'une légalisation de discrimination sur ce terrain-là et qui surtout conduisent certains à se demander si la question qui se pose aujourd'hui est bien la question initiale de la séparation de l'Église ou de l'État, ou davantage, donc un certain nombre d'auteurs, dont Dominique Born, qui écrit récemment sur la question de l'instrumentalisation de la laïcité, à des fins plutôt, non plus d'une régulation entre les rapports entre le politique et le religieux, mais plutôt à des fins de construction d'une éventuelle identité nationale nouvelle, dans laquelle le droit est malmené actuellement, puisqu'on a, comme je le disais au départ, des rapports de force entre ceux qui voudraient une restriction plus importante des libertés religieuses et ceux qui continuent d'attirer l'attention sur le fait que les publics, et notamment dans le cadre de l'enseignement, sont des publics qui s'inscrivent déjà dans un rapport d'inégalité juridique et qu'il convient de protéger plus que de sanctionner, puisqu'aujourd'hui on a une inversion entre un public qui serait juridiquement protégé et plutôt un public qui serait perçu comme une atteinte et donc susceptible de troubler l'ordre public.